Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebey.
Bonjour à tous. Jusqu'à 9h, temps universel, vous avez la parole sur la radio du monde. Dans une demi-heure, nous lançons le débat après la publication d'un message audio signé Aboubakar Shekaou. Le djihadiste se présente toujours comme le chef du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex Boko Haram, et dément donc l'annonce de sa mort. Il rejette aussi les propos très optimistes des présidents tchadiens et nigérians qui déclaraient il y a quelques jours encore le groupe décapité et affaibli. Alors que vous inspire ce message? Comment l'interpréter vous comme un revers pour les chefs d'État tchadiens et nigérians ou comme une tentative pour les djihadistes de garder la face malgré leur perte de terrain? Je vous rappelle le numéro pour participer, c'est le 33 9 693 693 70. N'hésitez pas à nous laisser aussi vos commentaires sur Twitter et Facebook. Vous êtes nombreux d'ailleurs sur Facebook, plus de 350 messages. Mais avant cela, d'ici le prochain journal dans 20 minutes, comme chaque jour, nous écoutons vos questions sur l'actualité, nous y répondons en direct et nous avons d'abord Sorel qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Sorel.
Bonjour Marie Cazadebey. Et très heureux de vous avoir sur les ondes de Radio France Internationale à remplacement de Juan parti en vacances.
Merci beaucoup. Merci aussi pour Juan. Soyez le bienvenu Sorel. Vous avez des questions à nous poser sur la Chine.
Effectivement. J'ai appris sur les ondes de RFI depuis mercredi le 12 août de deux gigantesques explosions qui ont secoué la ville de Tianjin dans le nord-est de la Chine, ayant fait plus de 50 morts et 700 blessés. À ce sujet, j'en avais quelques préoccupations. Mm-hmm. Quelles sont les réelles causes de l'incendie qui a causé l'explosion? Deuxième question. Le gouvernement chinois est-il au courant que ce site présentait de hauts risques? Est-ce qu'il va y avoir un renforcement des mesures de sécurité?
Sorel, le dernier bilan fait état de 114 morts, 700 blessés. C'est vrai qu'il s'alourdit de jour en jour hein, et donc ces explosions remontent à mercredi. Et elles ont, vous l'avez dit, littéralement ravagé le port de Tianjin. Les déflagrations sont parties d'un site industriel. C'est Delphine Sureau, notre correspondante à Shanghai, qui va vous répondre. Delphine qui s'est rendue évidemment sur les lieux. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Sorel voulait savoir quelles étaient les causes de l'incendie qui a provoqué les explosions. Est-ce qu'on le sait pour l'instant?
Non, on n'en sait rien et ça va être très difficile pour les enquêteurs de retrouver des indices pour déterminer l'origine de l'incendie puisque la zone est dévastée et imprégnée de produits chimiques. En revanche, on a une idée de ce qui a déclenché les explosions. Parmi les produits stockés dans l'entrepôt qui a pris feu, certains explosent au contact de la chaleur et surtout au contact de l'eau comme le carbure de calcium. On soupçonne donc les pompiers d'avoir eux-mêmes provoqué les explosions en arrosant le feu alors qu'ils auraient dû utiliser du sable ou de la poudre sèche pour l'étouffer. À leur décharge, les pompiers n'étaient apparemment pas au courant des types de produits qui étaient stockés dans l'entrepôt. Et ceux qui ont été envoyés pour sécuriser cette zone à haut risque étaient jeunes, 18, 20 ans, inexpérimentés, en contrat précaire pour certains. De la polémique à ce sujet. Pourquoi a-t-on envoyé des pompiers de deuxième classe pour éteindre un feu sur un site à haut risque? Je vous rappelle que 85 pompiers sont morts dans les deux explosions.
Voilà pour les causes. Et Sorel voulait savoir ce que savait le gouvernement des risques et si des mesures ont été prises depuis cette catastrophe.
Évidemment, la ville de Tianjin, qui gère le port, connaissait les risques, mais elle n'a pas pris les précautions nécessaires. Alors, il y a d'abord eu une polémique autour des pompiers. Une brigade spécialisée aurait dû intervenir. Il y a aussi des irrégularités du côté de Juerai Logistique, qui est le propriétaire de l'entrepôt, dont le travail est de stocker et ensuite de transporter dans des containers ces produits dangereux. Et d'après l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, l'entreprise a opéré sans licence l'autorisant à stocker ces produits entre octobre 2014 et juin 2015. Il y a aussi des différences sur la quantité de produits qui étaient présents dans l'entrepôt et la quantité déclarée aux douanes. Et puis l'entreprise a aussi installé son entrepôt trop près des premières habitations en ne respectant pas la distance de sécurité d'un kilomètre qui est prévue par la loi chinoise. D'ailleurs, les témoignages des habitants qui habitent tout près montrent que personne n'était vraiment au courant qu'il y avait des produits aussi dangereux si près de chez eux. Dernier élément, il y a aussi des témoignages d'employés de Juerai qui montrent qu'ils n'ont pas reçu la formation nécessaires pour manipuler des produits chimiques. Donc pour répondre aussi à l'autre question de Sorel, hein, sur est-ce qu'il y aura un renforcement des mesures de sécurité sur les autres sites en Chine, la réponse est oui. Le président chinois Xi Jinping a en tout cas déclaré qu'il fallait en finir avec l'insécurité au travail, que les autorités devaient garder toujours à l'esprit et qu'il fallait une croissance en toute sécurité. Et donc il a exigé un meilleur mécanisme de réponse d'urgence, un renforcement des mesures de sécurité au travail et aussi un examen minutieux des risques de sécurité. Parce qu'avant Tianjin, il y a eu d'autres accidents, hein, d'autres usines ont explosé ces dernières années en Chine. Le port de Tianjin n'est absolument pas un cas isolé.
Delphine Thureau, restez en ligne avec nous de Shanghai. Un autre auditeur a des questions à vous poser. C'est Abakar qui nous appelle de N'Djamena. Bonjour Abakar.
Oui, bonjour Marie-Louis, bonjour Philippe. Je profite de votre micro pour dire bien des choses à 45 millions d'auditeurs à travers le monde.
Merci Abakar. Vous avez aussi des interrogations sur ces explosions à Tianjin.
Voilà, j'ai des questions sur ce sujet. La première, je voudrais simplement savoir quels sont les produits qui ont été brûlés et ces produits présentent-ils un danger pour la population? Et la seconde question, j'aimerais savoir quels sont les impacts environnementaux de cet accident.
Merci Abakar pour ces questions. Delphine Thureau, alors ces produits chimiques qui ont brûlé, est-ce qu'on sait quelle sorte de produits il s'agissait?
Alors, il n'y a pas de liste officielle qui a été publiée, mais si on va voir sur le site internet de Juerai, on s'aperçoit que l'entreprise stockait dans le même entrepôt 6 catégories de produits dangereux. Il y a des oxydants comme le nitrate de potassium, des inflammables et explosifs comme le carbure de calcium et le nitrate d'ammonium, et puis des produits toxiques, du toluène qui, sur le long terme, s'attaque au système nerveux, et le fameux cyanure de sodium, hein, dont on a beaucoup parlé dans cette affaire. Au contact de l'eau, en fait, il se transforme en cyanure d'hydrogène, devient un gaz qui, s'il est respiré en grande quantité, est fatal immédiatement. Les autorités de Tianjin assurent qu'au-delà du périmètre de sécurité de 3 km qui a été établi autour du site, respirer l'air est absolument sans danger. D'ailleurs, pour se protéger, elles diffusent chaque jour des relevés de la qualité de l'air, mais par précaution, les habitants préfèrent quand même porter un masque. Alors, ils portent des masques anti-pollution qui ne sont pas forcément efficaces pour lutter contre les gaz toxiques. En fait, il est vraiment difficile, hein, de savoir si la population est exposée à un quelconque risque. Le manque de transparence des autorités est vraiment inquiétant à ce sujet-là.
Gaëlle Rabakar aussi s'inquiète des impacts environnementaux de l'incident.
Oui, il y en a, puisqu'en plus il pleut aujourd'hui à Tianjin, ce qui fait vraiment peur, puisqu'on craint une dispersion de la pollution, un nouvel échappement de gaz dans l'atmosphère. Et sur le site en lui-même, la pluie risque de disperser les produits chimiques, de les faire pénétrer dans le sol, voire une nouvelle explosion. Alors, cette pluie était annoncée, donc les autorités ont quand même pris leurs précautions. Ils ont, depuis hier soir, fini de nettoyer la plus grande partie du cyanure de sodium. Les autorités ont aussi construit une digue autour du cratère de l'explosion pour que l'eau y reste, qu'elle ne s'échappe pas. Il y a 10 000 tonnes d'eau qui doivent être retraitées, d'eau polluée. Et du cyanure de sodium a aussi été retrouvé en grande quantité dans les eaux usées autour du site, donc il s'est déjà échappé, et en mer dans l'eau du port.
Merci Delphine Thureau d'avoir répondu en direct de Shanghai et en Chine à nos auditeurs Sorel et Abakar sur ces explosions qui ont donc touché le port de Tianjin. Appel sur l'actualité, il est 10h18 à Paris, c'est la suite de notre première partie consacrée à vos questions sur l'actualité. On accueille maintenant Houri qui nous appelle de Tanger au Maroc. Bonjour Houri.
Bonjour Marie, bonjour aux auditeurs du Foot à Galon, c'est là-bas à Guinée-Conakry.
Le message est passé Houri. Soyez le bienvenu, vous avez des questions à poser sur la Turquie aujourd'hui.
Bien sûr Marie, la Turquie veut ou a déjà lancé une opération offensive contre l'État islamique. Alors à ce sujet, j'aimerais vous poser trois petites questions. Alors rapidement, la première question, les États-Unis et la Turquie veulent créer une zone de sécurité au nord de la Syrie. Qu'est-ce que cela signifie? La deuxième question, la Turquie va-t-elle envoyer des troupes au sol, Marie?
Alors c'est Jean Marcoux, professeur à Sciences Po à Grenoble, chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul qui va vous répondre. Bonjour Jean Marcoux.
Oui, bonjour.
Alors effectivement, la semaine dernière, la Turquie a annoncé la mise en place d'une zone tampon avec le soutien des États-Unis. Peu de temps après, le département américain démentait cette information. Qu'est-ce qu'on peut dire alors à Houri de ce projet de zone de sécurité?
Bien, on peut dire qu'en fait, c'est un vieux rêve de la Turquie depuis le,
le début de la crise, puisque ça permettrait finalement de créer un havre de sécurité pour les réfugiés et de ralentir justement le flux de réfugiés en Turquie qui est extrêmement important, hein, puisqu'il y a probablement près de 3 millions de Syriens à l'heure actuelle en Turquie. Mais en réalité, c'est un projet qui n'a jamais véritablement vu le jour et il y a peu de chances, même si on en reparle beaucoup ces derniers jours, que ce projet finalement aboutisse. Pourquoi ? Parce que ça supposerait, d'une part, que les États-Unis créent une zone d'exclusion aérienne, ce qui aurait pour effet de les mettre en confrontation directe avec l'armée de l'air de Bachar el-Assad, qui est le seul acteur du conflit syrien à posséder effectivement cette armée de l'air, enfin des moyens aériens. Et puis d'autre part, parce qu'il faudrait tenir cette zone, et cette zone suppose effectivement d'avoir des troupes au sol pour tenir cette zone. Alors, un des projets discutés par les États-Unis, enfin proposés par la Turquie, était de renforcer la formation des rebelles modérés syriens, mais en réalité, il n'y a que quelques dizaines de rebelles qui ont été formés. Ils ne sont pas capables, effectivement, de tenir cette zone.
Et avec des arrestations récemment, hein, d'ailleurs, de rebelles formés par les États-Unis.
Voilà, avec des enlèvements, oui, de rebelles formés par les États-Unis.
Alors, vous l'avez évoqué, et c'était une question d'Ouri, hein, sur les troupes au sol. C'est vrai que ça fait 3 semaines environ que la Turquie a lancé son offensive antiterroriste, et notamment contre l'État islamique en Syrie. Déjà, est-ce qu'on peut faire un point sur la forme que prend cette offensive ?
Oui, enfin, elle a lancé cette offensive contre l'État islamique, elle a bombardé effectivement des positions de l'État islamique et elle a autorisé les avions de la coalition, en particulier les avions américains, à se servir de la base aérienne d'Incirlik, donc à frapper l'État islamique à partir de la base aérienne d'Incirlik. Mais il y a des négociations très fortes sur justement le contrôle de ces bombardements, jusqu'où les Américains pourront bombarder, et en particulier un des problèmes qui se pose, c'est la coordination entre les Américains et les Kurdes du PYD, les Kurdes donc syriens, notamment dont la branche militaire s'appelle le YPG, et les Turcs ne veulent absolument pas qu'en fait ces bombardements soient faits en coordination avec les Kurdes, et notamment ne veulent pas partager de renseignements avec les YPG, avec les zones kurdes, le commandement kurde, militaire kurde en Syrie. Donc si vous voulez, pour l'instant, cette opération militaire est assez complexe, et il faut répondre aussi à la question de notre auditeur qui disait, est-ce que la Turquie va envoyer des troupes au sol ? Pour l'instant, sans doute non. Effectivement, la Turquie n'a pas envie probablement d'aller dans le marais syrien.
Alors Ouri, vous aviez une autre question à poser à Jean Marcon, hein, sur la Turquie et cette offensive contre l'État islamique. On vous écoute.
Oui, peut-on envisager un rapprochement avec le régime d'Al-Assad ? À la suite, la Turquie a-t-elle d'autres alliés sur place ?
Alors Jean-Marcou, déjà, est-ce qu'on peut faire un point, hein, sur les relations entre Ankara et Damas depuis le lancement de cette opération ? Est-ce qu'ils ont désormais un ennemi commun ou on ne peut pas dire ça ?
Non, absolument pas. La Turquie n'a jamais modifié son point de vue sur le régime de Bachar el-Assad, qui constitue et continue à constituer son principal adversaire en Syrie. En tout cas, l'objectif justement de la Turquie, elle l'a dit à plusieurs reprises, c'est que s'il y a un règlement effectivement en Syrie, ce régime doit partir. En tout cas, il ne doit pas y avoir d'alliance effectivement avec ce régime.
Donc lorsque Ouri évoque un rapprochement possible, il n'est pas possible, en tout cas il n'est pas...
Non, il n'est pas possible, pas possible. En plus, on l'a vu avec les derniers bombardements qu'a effectué le régime de Bachar el-Assad, qui ont entré condamnation très sévère par les Occidentaux. Donc la présence de Bachar el-Assad dans un règlement n'est pas souhaitée par les Occidentaux, et il est encore moins souhaité à l'heure actuelle par la Turquie.
Alors oui, se demander si la Turquie avait d'autres alliés sur place, hein, dans sa lutte contre l'État islamique. Vous avez évoqué évidemment les États-Unis.
Oui, je crois qu'il faut voir que à l'heure actuelle, en Syrie, il n'y a plus véritablement d'État, mais une série d'alliés, une série d'acteurs, si vous voulez, qui sont effectivement l'État islamique, mais aussi les Kurdes, le régime de Bachar al-Assad, le Front al-Nusra, voire des sous-ensembles à l'intérieur de ces différents acteurs, et que la Turquie, qui n'a plus finalement sur sa frontière syrienne d'État, en réalité gère des relations avec de multiples acteurs d'une certaine manière. Les États-Unis, par ailleurs, font un petit peu de même, mais pas tout à fait sur les mêmes positions, puisque notamment ils sont beaucoup plus proches, dans des intérêts communs beaucoup plus forts avec les Kurdes. Et je crois que c'est au travers de ces relations avec des acteurs et au travers finalement de l'intérêt de chaque acteur, mais aussi de chaque puissance qui intervient dans le conflit syrien, qu'il faut lire à l'heure actuelle ce qui se passe en Syrie.
Merci beaucoup Jean-Marc Roux d'avoir répondu aux questions de Houri qui nous appelait de Tanger. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po à Grenoble, c'est dans le sud-est de la France, et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. On change de continent pour une question maintenant qui concerne la Centrafrique, et c'est Amadou qui nous appelle de Bargaram dans l'extrême nord du Cameroun qui va nous la poser. Bonjour Amadou.
Bonjour Marie.
Soyez le bienvenu Amadou.
Merci Marie.
On écoute votre question.
Bonjour à tous les auteurs de RFI. Alors, j'ai une préoccupation pour la Centrafrique en ce qui concerne les élections présidentielles en Centrafrique. La première préoccupation, c'est de savoir quelles sont les conditions d'éligibilité de tous les candidats. La deuxième, est-ce que M. Bouzizé, qui est en exil en Ouganda, est-ce que malgré les sanctions qui sont contre lui, infligé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce que sa candidature est recevable?
Est-ce que ces sanctions vont l'empêcher d'être candidat? On l'a entendu, Amadou, hein, la semaine dernière sur notre antenne, hein, récemment, l'ex-président hein, dire qu'il espérait une levée justement de ces sanctions pour rentrer en Centrafrique et pour mener campagne. En tout cas, il entend se présenter. C'est Mathéo Guidou, notre correspondant à Bangui, qui va vous répondre. Bonjour Mathéo.
Bonjour.
Alors, on va répondre d'abord à la première question d'Amadou hein, sur les critères hein, pour que les candidats puissent se présenter aux élections présidentielles en Centrafrique.
Et bien, pour se présenter à l'élection en Centrafrique, il y a des critères qui sont à peu près communs, on va dire des critères communs à tous les pays. Il faut être centrafricain d'origine, avoir 35 ans au minimum et avoir une propriété qui est bâtie sur le sol national. Alors là où ça se complique, ce sont les conditions d'exclusion. Pour l'instant, le code électoral centrafricain, qui est encore en cours de discussion à l'Assemblée nationale de transition, énonce que si une personne a été condamnée pour meurtre, pour torture, pour vol par exemple, il est de fait inéligible. Alors dans le cas de François Bozizé, il y a une contradiction entre le droit national et international, car théoriquement, et je dis bien théoriquement, rien n'empêche aujourd'hui Bozizé de se présenter, car il n'a jamais été condamné à des peines qui le rendraient inéligible. Par contre, l'ex-président, il est sous le coup de plusieurs sanctions, notamment une interdiction de voyager qui est prise à son encontre par l'ONU en 2014, un gel de ses avoirs financiers et surtout un mandat d'arrêt international pour incitation au génocide et crimes contre l'humanité. Donc concrètement, si François Bozizé revenait en Centrafrique et se présentait vraiment à l'élection présidentielle, il serait de toute manière immédiatement arrêté, placé en résidence surveillée ou emprisonné en attendant une décision de justice. Une décision de justice qui prendrait du temps vu les lourds chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Impossible donc de faire campagne, ni à Bangui, ni en province, il ne serait plus qu'un nom sur une liste, si tant est que le code électoral en cours de discussion ne le rende pas dans quelques semaines inéligible de par les événements qui sont déjà passés en Centrafrique.
Mathéo Guidou, un autre auditeur a une question à vous poser sur cette présidentielle, mais je vous propose d'y répondre dans 10 minutes après le journal. Le débat suivra bien sûr cette première partie, un débat que nous lançons après la publication d'un message audio signé Aboubacar Chekaou, le chef du groupe État islamique. L'islamique en Afrique de l'Ouest dément les récents propos des présidents tchadiens et nigérians. On veut vous entendre au 339-693-693-70 sur ce sujet. A tout à l'heure, juste après le journal, pour la suite d'Appels sur l'actualité.